بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ خير شيخ سور الاسلام، نغمسيون الله رب العزة qui nous donne la possibilité d'être présents ce soir dans une assemblée où on va essayer d'apprendre un peu plus sur notre dîn, on va essayer d'apprendre un peu plus sur le akhira et sur le akhira que nous souhaiterons connaître. Les situations, les différentes ahwal, les différentes situations de akhira, et une situation qui doit faire rêver chaque mu'min, chaque mu'mina, c'est d'être invité par Allah Azza wa Jal le jour de Qiyam pour prendre place sous l'ombre de son trône. Ikhwani et akhawati fillah, nous sommes dans la période où les pèlerins, les hujjaj, se rendent à Makkah et à Madina pour le pèlerinage. Il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui vont partir dans quelques jours. Lorsqu'une personne est consciente qu'elle a été invitée par Allah Azza wa Jal pour le hajj, comment est-ce que cette personne ressent une certaine fierté, un contentement? Sharaf, c'est un grand honneur que de savoir qu'on a été invité par Allah Azza wa Jal pour ce ibadah qui est le hajj. Maintenant, les savants disent, imaginez que le jour de Qiyama, une personne se voit invitée pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas plus belle invitation. Vous pouvez être invité par le roi pour faire le hajj. Vous pouvez être invité par un président de la République à Matignon, à la Maison Blanche, au Kremlin, je ne sais pas l'endroit où vous voulez. La personne va ressentir une certaine fierté. J'ai été sollicité par les, entre guillemets, les grands de ce monde. Mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être invité par Allah Rabbul Izza pour être sous l'ombre de son trône. Yawma la zilla illa zillu. Le jour, il n'y aura d'autre ombre, si ce n'est l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Le seul endroit où l'homme trouvera une certaine tranquillité. Les savants décrivent cet endroit comme étant la place des élus, des personnes qui ont été aimées, qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour avoir cette position enviable dans cette étape de l'au-delà qui est la résurrection. Et parmi ces personnes, donc, on avait vu qu'il y a 7 catégories, et chaque catégorie se distingue par une qualité. Parfois, la qualité est en rapport avec l'accomplissement d'une bonne action. Parfois, la qualité est en rapport avec la gestion d'un ni'ma, d'un bienfait, ce qui n'est pas une chose facile. Parfois, cette qualité est en rapport avec la gestion des relations humaines, comme c'est le cas de personnes qui s'aiment pour Allah Azza wa Jal, avec une sincérité optimale, si on pourrait dire. Et parmi ceux qui gèrent les bienfaits qu'ils ont eus, on pourrait donner l'exemple de cette personne qui a eu le mulk, un dirigeant qui fait preuve d'équité, de justice. Et donc, parfois, il y en a ceux qui se distinguent par l'accomplissement de bonnes œuvres, comme l'homme dont le cœur est attaché au masajid. Et la catégorie qui nous intéresse, que nous avons commencé à voir, et qu'on va essayer de compléter mardi prochain, enfin le prochain mardi, il nous reste 2 séances encore, c'est une personne qui n'a pas réellement accompli une bonne action. Non, c'est quelqu'un qui a eu la possibilité, l'occasion d'accomplir un péché, mais qui a su dire non à son nafs, qui a su dire non au waswasa de shaitan. C'est la personne, l'homme ou la femme, qui reçoit des avances pour le zina, pour l'adultère. Et comme on l'avait expliqué dans les durus sabiqa précédemment, il n'y a rien de plus dangereux que le zina. Tant pour un couple, dans le cas d'une personne qui est mariée, que pour un jeune, qu'on va appeler en français, j'allais dire, c'est un lapsus, j'allais dire en vieux français, la fornication, tant pour un jeune, ce sont là des péchés qui détruisent le iman. Lorsque la personne est dans ce péché, le iman quitte le cœur de cette personne. Donc, ikhwan et akhawat et fillah, lorsqu'on analyse les textes qui demandent aux croyants de baisser leur regard, on va voir si on a le temps ce soir, inshallah, quelques versets de sourate An-Nur. Et parmi ces versets de la sourate An-Nur, « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » au masculin, et ensuite au féminin, « قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ » Et en général,
Lorsqu'Allah Rabb al-Izzah adresse un message aux croyants, Allah Azza wa Jal destine le message aux croyants, mu'min et mu'mina, les messieurs, les hommes comme les dames, en utilisant uniquement le masculin, les pronoms personnels du masculin. Ya ayyuhalladhina amanu, il n'y a pas besoin de mettre au féminin. Et lorsqu'il y a ya ayyuhalladhina amanu, ça concerne également les dames, bien sûr. Également dans les hadiths. Mais les savants disent que pour le regard, le nas, le texte, se décline, le amr, l'ordre, se décline au masculin et immédiatement après au féminin. Ce qui est vraiment spécifique pour cette action. Pour que l'ensemble des croyants et des croyantes réalisent que le fait de baisser le regard, c'est une priorité. C'est une priorité parce que ce sera, incha'Allah, la première protection contre ce péché destructeur qui est le zina. Donc les savants disent, quand on analyse le verset qui demande aux croyants et aux croyantes de baisser le regard, ça nous fait comprendre que le simple fait de regarder ce qu'on n'a pas le droit de regarder, c'est déjà un premier pas vers l'adultère, même si on se contente de... excuse-moi, les termes ne sont pas appropriés, si la personne pense tout simplement qu'elle est en train de regarder. D'accord ? Pour utiliser des verbes soft, pour ne pas dire d'autres verbes, je suis juste en train de regarder. Mais c'est déjà un premier pas qui risque de nous faire sombrer dans le zina. Donc les savants disent, maintenant imaginez la personne qui reçoit, qui a la possibilité d'accomplir le zina, j'allais dire qu'il le reçoit sur un plateau. D'où le texte du hadith, « Rajulun da'athum ra'atun » un homme qui reçoit les avances d'une femme d'une grande beauté et d'une haute lignée, et que malgré l'attirance, et en commenté, les savants disent qu'il y a une attirance. Lorsque l'homme voit cette femme, l'homme est attiré. Comme c'est le cas, on dit la fitra, c'est dans la faiblesse de l'être humain, de l'homme et de la femme bien sûr, de l'être humain umuman. Et que la seule chose qui empêche cette personne d'assouvir ses pulsions, c'est khashiyatullah, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et donc, que ce soit un homme qui reçoit les avances d'une dame ou une dame qui reçoit les avances d'un monsieur, mais qui refuse par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal, qui ressent dans son cœur muraqabatullah, qui a toujours la pensée d'Allah, ben cette personne, en refusant ce péché qui lui est pourtant accessible et sans conséquence directe, cette personne a eu la réaction de iman, de foi, qu'Allah Rabbul Izza attend de chaque croyant, et pour la récompense adéquate pour ces personnes, c'est une place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça veut dire, ne vous étonnez pas que celui qui résiste au zina qui lui est proposé obtienne une telle récompense de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et bien sûr, avant tout, Allah Azza wa Jalla est karim, Allah est généreux, il accorde de haut grade à qui il veut, de la façon qu'il veut. Et les savants disent également qu'il ne faut pas penser que le problème de l'adultère ou du zina, ça concerne uniquement notre époque. Très souvent, on pense que c'est presque une fatalité. On finit par se faire une raison. On dit, oui, mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ces péchés n'étaient pas aussi répandus. Et à notre époque, et surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, ben voilà, c'est normal qu'il y a des choses qui se produisent. Mais les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Si on demande à un savant, il y a des siècles, 5, 6 siècles avant, 10 siècles avant, ils n'auraient rien compris. Mais on a l'impression que le zina est un péché contemporain. Ah, badan wallah. Et l'objectif de ces 4 ou 5 anecdotes, ce n'est pas des histoires, c'est des anecdotes de personnes pieuses qui ont été exposées à ce péché dans des pays 100% musulmans, à une époque proche des tabi'in. Ces personnes ont vécu des situations que nous, parfois, nous pouvons connaître. Et ils ont refusé le zina, l'adultère, par amour et par crainte d'Allah. L'objectif de ces quelques anecdotes, le fait de citer ces anecdotes, on n'est pas trop fan des histoires parce qu'on aime plutôt des trucs qui sont plus cadrés, mais l'objectif de ces histoires, c'est de réaliser qu'à toute époque, Iblis, alayhi la'natullah, shaytan, a essayé de détourner le mu'min du droit chemin, et la piste la plus utilisée par Iblis, c'est l'adultère, le zina. Et le péché de lequel il arrive à faire sombrer le plus de personnes, c'est l'adultère. Donc on va voir aujourd'hui, incha'Allah, 4 ou 5 petites histoires très courtes, des anecdotes de certaines personnes qui ont raconté comment est-ce qu'ils ont été tentés et ils ont su dire non et comment surtout ils ont pu convaincre la personne d'en face. Parfois c'est des messieurs qui refusent les avances d'une dame, mais on voit également qu'il y a des dames qui refusent les avances d'un monsieur et pour le même motif, la crainte d'Allah Azza wa Jal, et quels sont les arguments qu'ils vont faire entendre au, entre guillemets, prétendant ou à la prétendante pour que la personne en face également obtienne la hidayah. Que par une parole ou deux, la personne passe d'un état presque bestial où il est prêt à assouvir ses besoins, à un retour de iman, de taqwa et qui aboutit à un istighfar jusqu'à ce que cette personne s'éloigne totalement de ce péché. Donc, ce qu'on va voir, Inch'Allah, comme on l'a dit, on va commencer par 5 petites histoires et ensuite on va voir quelques versets, si on a le temps, de la sourate An-Nur en respectant, Inch'Allah, les 30 minutes. Vous vous rappelez l'histoire de la dernière fois? On avait raconté rapidement, c'était Atta ibn Yassar, rahimahullah, il dit qu'il était en voyage et il était avec son frère dans un endroit qui s'appelait comment? Si quelqu'un se rappelle? Abwa. Et où se trouve Abwa? On avait dit c'est entre Makkah et Madina. Donc déjà, le lieu géographique, c'était pas New York ou Haïti ou Hawaï ou Miami, vice, non, c'était Abwa, Bayna Makkah wal Madina. Une situation de zina dans cet endroit. Il dit qu'il était en voyage avec son frère est sorti, et il était seul, il est en train de prier. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire un jeûne avec, je vous donne l'image, hein, habillé comme un jeune, séduisant, cigarette à la main, en train de regarder les gens et qui reçoit des avances. Non, il a dit, j'étais en train de faire salat nafil. Maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est qiyam ou layl ou autre, il était en train de prier. Et dans sa prière, il sent une présence. Ce n'est pas paranormal activity, hein, non. Il sent une présence et il complète sa salat, il regarde, c'est une jeune femme. Et il décrit que c'est une femme d'une grande beauté. Mais ça, c'est le premier regard. Le premier regard est pardonné. Voulez-vous une définition du premier regard? On peut le traduire par le regard furtif. Vous voyez et vous baissez le regard. Ce n'est pas le regard, le premier regard. Et pardonner. Waouh, vous avez fait un scanner, un IRM, voilà, vous avez tout intégré, vous avez enregistré les données. Non, le premier regard, c'est le regard accidentel, furtif. Celui-là, il est pardonné parce qu'Allah Rabbul Izzah est Ghafur Rahim, et Karim. Et parce que nous devons vivre dans une société. Autrement, il nous serait demandé de vivre dans les montagnes, d'aller vivre dans les masajid, de rester enfermé pour que nos yeux ne se posent jamais sur quelque chose qu'on n'a pas le droit de regarder. Le fait que le mu'min et la mu'mina se doivent de vivre dans une communauté ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des fois on voit et on baisse le regard. Et c'est là qu'il y aura le iman qui va encadrer. Maintenant, le hijab, c'est bien sûr la possibilité que la femme se couvre correctement. Ça évite des situations où Shaitan peut jouer avec les cœurs qui sont faibles. Parce qu'il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, et puis il y a des gens qui ont des faiblesses dans le cœur. Il y a des gens qui peuvent tomber amoureux de tout le monde. Oui. Tant du côté des messieurs que du côté des dames. Il suffit qu'il a l'impression que cette femme l'a regardé, waouh, c'est sûr qu'elle est amoureuse de moi et tout, il va commencer à se faire des films. Et vice versa. C'est comme ça. Et c'est pas forcément qu'on est jeune, qu'on n'est pas marié, parfois même quand on est un certain âge et tout, même on est un peu mûr. Ça prouve que Shaitan, il est haris. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, parce que c'est un pouvoir qu'il a, d'essayer d'embellir le péché. Te faire croire que cette personne-là, elle est exceptionnelle. Que si elle s'était présentée à Miss Réunion, c'est sûr qu'elle aurait gagné, mais par plus Dieu, elle ne l'a pas fait. Alors que, il n'y a rien d'exceptionnel. Shaitan a une spécialité, c'est d'embellir le péché. De faire en sorte que le cœur est attaché au péché. Et ça, c'est valable pour n'importe quel péché. Et donc, ce qu'on disait, subhanallah, c'est que cette personne est en train de prier, on revient à notre histoire. Et ça prouve déjà, un, on est où? À Abwa, entre Makkah et Madina. On est donc dans un pays musulman. On est à une époque qui est proche des Atba'i Tabi'in. On a affaire à un homme pieux qui est en train de prier. Il dit que j'étais en train de prier, je sens cette présence et je raccourcis ma prière et je vois une dame. Il dit que je demandais à cette femme, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'elle est perdue? Est-ce qu'elle a besoin d'eau? Ou alors un problème de monture? Et cette femme dit que je t'observe, je retraduis les mots, hein, et je suis subjugué par ta beauté et tout. Ouais. Un homme qui entend de tels propos de la part d'une femme, il faut vraiment avoir un iman solide. pouvoir garder le regard baissé. Et cette femme annonce clairement la couleur. Et cet homme se met à pleurer. On retrouve les termes. Ilayka anni, éloigne-toi de moi. La tuhriqini wa nafsaki bin nar. Ne me brûle pas et ne te brûle pas avec le feu du Jahannam. Et il s'est mis à pleurer. Pleurer, les savants disent, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer? Parce que déjà, il est triste qu'il est éprouvé par ce genre de péché et il a une crainte envahissante, et ça c'est la preuve qu'il a la crainte d'Allah. Il a cette peur que si il sombre de ce péché, qu'est-ce qui va lui arriver un jour? C'est quelqu'un qui était connu pour sa piété. Donc il s'est mis à pleurer, et lorsque son frère arrive à Arta en train de pleurer, il ne comprend pas ce qui se passe, jusqu'à ce que la femme est partie. Et son frère ne lui a jamais posé quelconque question. Pourquoi est-ce que tu pleurais? Et qui était cette jeune femme qui était à côté de toi? Par respect, son frère ne lui a rien demandé. Il dit, un jour, après ce voyage, le frère entend Arta dans la nuit en train de pleurer. Il s'est réveillé, il est en train de pleurer. Il dit, explique-moi, est-ce que c'était un cauchemar ou autre chose? Elle dit que non, bien au contraire, j'ai fait un rêve magnifique. Je te le raconte à condition, tu me fais la promesse de ne jamais le raconter de mon vivant. Et les savants disent, ça aussi on voit, là on voit l'humilité, tawadhu. Il y a des gens qui aiment qu'on raconte leur piété, hein, de leur vivant même, pour qu'on sache que c'est quelqu'un de bien. Et donc cette personne était animée de ikhlas, elle dit que d'accord, raconte-moi ton rêve, je te promets, je ne le dévoilerai jamais. Dit que dans mon rêve, j'ai vu le prophète Yusuf alayhi salam. Et on avait vu dans le mardi d'avant que Yusuf alayhi salam, par excellence, c'est le modèle pour toutes les personnes à qui Allah Rabbul Izzah a donné la jeunesse et la beauté et qui reçoivent des avances et qui refusent par amour et par crainte d'Allah. Il y a le namouzaj, il y a les ordres, il y a les interdits, il y a les nasiha, et ensuite il y a l'homme qui met en application pour que ce soit une leçon pour l'humanité. C'était le cas de Yusuf alayhi salam, qui reste un modèle pour nous tous. Et donc dit, j'ai vu Yusuf alayhi salam en rêve. Il dit que j'étais tellement ému de voir Hazrat Yusuf alayhi salam que je me suis mis à pleurer. Et Yusuf alayhi salam, qui était dans une assemblée avec des gens, il est en train de s'adresser à différentes personnes, il a dit, ma yubkik ayyuha rajul, dit, oh toi qui nous observes, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, subhanallah, il a dit, je te vois, ô prophète Yusuf alayhi salam, et je repense à ton histoire, comment est-ce que tu as été opprimé, comment est-ce que tu as été trahi par tes frères, comment est-ce qu'ils t'ont jeté dans le puits, comment est-ce qu'on t'a mis en prison, ainsi de suite. Subhanallah, comment est-ce que tu as été éprouvé par Allah Azza wa Jal. Et Yusuf alayhi salam va répondre à Ata ibn Yassar, et il dit, fahalla ta'ajjabta min sahib al-mar'ati bil abwa. Il dit, tu devrais également être impressionné par l'histoire de cette femme à Abwa. Dit, lorsqu'il m'a dit cette parole, ça m'a touché et j'ai compris qu'il était en train de mettre en avant ma réaction lorsque j'étais face à cette tentation. Et je me suis réveillé et en fait il pleurait de joie et de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et après sa mort, donc, son frère a raconté cette histoire. Donc, par rapport au fait qu'il a eu cette réaction du iman, il a eu cet honneur de voir Yusuf alayhi salam, qui a donc approuvé sa réaction, qui était une réaction du iman. Donc, ça, on l'avait expliqué la dernière fois. Il y a une autre histoire, enfin, il y en a beaucoup. On en a sélectionné 5, et on ne donne pas parfois le nom des villes. Parce que parfois, c'est des histoires qui peuvent avoir lieu près de Mecca. Et pour pas qu'on ait de mauvaise compréhension, pourquoi, comment est-ce que les gens faisaient ça à cette époque? L'objectif, c'est qu'on réalise qu'à toute époque et n'importe quel endroit, Shaitan joue avec les gens. Et je le répète encore une fois, faut pas se dire que c'est que cette communauté, enfin, c'est à notre époque qu'on est concerné. Non, ça a toujours existé. Et le devoir du croyant a toujours été de lutter contre les tentations de Shaitan, et les pieux ont toujours réussi. Donc il n'y a aucune raison qu'à notre époque on banalise le péché, qu'on finisse par l'intégrer et dire que à notre époque c'est normal. Abadan wallah. Le degré de zina a toujours été présent, le ta'thir, la gravité de l'adultère a toujours été présent dans le cœur des hommes, et ils ont toujours eu la réponse face à Shaitan. Les pieux. Abdullah ibn Muslim al-Ijli, rahimahullah, il explique que, il raconte une histoire, l'histoire d'une dame qui était d'une grande beauté. Mais c'était une femme qui n'avait aucune piété, aucun tadayun, aucune pratique. Et son mari aussi, Hein, c'était des gens qui ne pratiquaient pas. Il a dit à son mari, elle se regardait dans le miroir, elle disait miroir au miroir, dit que voilà, elle dit, quel que soit l'homme qui me voit ainsi habillé, ainsi paré, je suis sûr que n'importe quel homme tomberait dans le zina. Je pourrais séduire n'importe quel homme. Et le mari a dit, je te mets au défi. Il y a une personne qui est vraie dans cet endroit, qui a vraiment la piété, c'est un homme sincère, il s'appelle Ubayd ibn Umayr. Il dit que je te mets au défi, essaie de voir cet homme et essaie de lui faire des avances. Donc en commentaire, les avances disent, des gens voient la mentalité de cette dame et de son mari, ce n'était pas des gens très fiables. Il dit que cette femme explique, je me suis approché, j'ai essayé de parler avec Ubayd ibn Umayr et... En premier lieu, il a pensé que la femme avait besoin de poser une question sur la religion ou autre chose. Quand il a compris l'objectif de cette dame, il lui a dit, je vais te poser 5 questions. Il répond à mes 5 questions, ensuite on va voir. Il a dit, akhbirini. Les paroles sont magnifiques. Law anna, explique-moi, madame, si l'ange de la mort venait immédiatement et il reprenait ton ruh, ton âme, est-ce que tu aurais été contente que je sombre, que j'accepte ta proposition et que juste après l'ange de la mort reprend ton âme? Elle a dit jamais. Abadan wallah, jamais de la vie. Elle a dit, je te pose une deuxième question par rapport à la proposition que tu me fais. Elle a dit, imagine que justement tu meurs et qu'on te pose dans la tombe et que les anges s'apprêtent à t'entourer pour te poser les questions qu'on pose aux défunts. Est-ce que tu aurais souhaité que juste avant de mourir, qu'on accomplisse ce que tu essaies de me faire accomplir? Elle a dit jamais de la vie. Parce que là, elle commence à réaliser les conséquences. Le travail de Ubayd ibn Umayr, il aurait pu avoir un discours plus virulent. Non, il a essayé de persuader cette femme que le plaisir qui est immédiat est un plaisir inconscient, est un plaisir illusoire. Et lorsqu'une personne sombre de ce péché, il ne réalise pas les conséquences, il ne réalise pas les étapes du akhir. En fait, quand une personne reste dans un cercle vicieux du haram, c'est que la personne ne se projette aucunement dans le akhir. Et ça, c'est une situation très grave. On avait expliqué hier, tu étais là, c'est un quotidien, dans Riyadus Salihin, le kayyis, le croyant intelligent, c'est celui qui, en permanence, il examine son intérieur, il voit quelle est sa situation spirituelle, sa situation de iman, ou amila lima ba'd al-maut. Et chaque action qu'il accomplit, il a pour objectif la vie après la mort. Ça, c'est un croyant intelligent. Les savants ont commenté, les muhaddithines disent que l'homme intelligent, c'est celui qui, en permanence, il pense à l'étape après cette vie. C'est pas celui qui, durant le mois de Ramadan, il va faire plein de bonnes actions. Ou lorsqu'il va au Hajj, il va faire plein de bonnes actions. Et après, à son retour, il retourne vers une vie, astaghfirullah, normale, pour ne pas dire anormale. Là, ça, c'est pas un homme intelligent. Le croyant intelligent, c'est celui qui a la pensée d'Allah en permanence. Quelle que soit la période de l'année, il sait qu'il a un maw'id, un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et c'est de cette façon qu'on atteint la taqwa. Donc, le travail de Ubayd ibn Umayr, c'est de ramener cette femme vers l'équilibre et la pensée permanente du akhirah. Donc, il a cité deux étapes du akhirah. La première étape, c'est naz'ir-ruh, lorsque l'ange de la mort reprend l'âme. La deuxième étape, c'est lorsqu'on pose la personne dans la tombe. Troisième question, dit « Fallaw anna an-nas u'tu kutubahum ». Il dit, imagine qu'on est dans le akhirah, de l'étape du mahshar, de la résurrection, et que tu vois les gens en train de recevoir le livret d'action. Certains de la main droite, et d'autres, qu'Allah nous protège, de la main gauche derrière leur dos. Et que tu t'apprêtes à recevoir ton livret d'action. Au moment où tu vas recevoir, c'est ton tour, on t'appelle, mais tu ne sais pas de quelle façon le livret te sera remis. Est-ce qu'à ce moment-là, tu aurais souhaité qu'avant de mourir, on accomplisse l'adultère vers lequel tu m'invites? Et là, cette femme a dit, sans le moindre doute, non. Ce serait la pire des choses que j'aurais fait avant de mourir. Parce qu'elle sait, là, elle réalise quelle aurait été sa situation dans cette étape du akhira. Elle dit, Allahumma la. Et l'homme dit à chaque fois, sadaqti, donc tu as dit vrai. Quatrième question qu'il pose cette femme, falawji abil mawazin, waji abiki. Elle dit, Lord, imagine qu'on est dans l'étape suivante de l'au-delà, les balances sont posées, installé, et tu vois les gens avancer, et chaque personne voit ses actions peser. Et arrivé ton tour, tes actions, tes bonnes actions seront d'un côté et tes péchés de l'autre. Aurais-tu souhaité avant de mourir qu'on accomplisse ce haram? Elle a dit jamais de la vie, parce qu'elle réalise que dans ce cas, elle aurait retrouvé ce zina dans la balance, et donc ça aurait été la cause de sa destruction. Et la dernière question, falaou. Imagine qu'on est à l'étape suivante, que tu dois te présenter devant Allah, lil mas'ala, pour les hisab. Est-ce que tu aurais souhaité la même question, qu'avant de mourir, on accomplisse ce zina, ou bien non? Elle a dit jamais, aucunement. Donc, Ubay ibn Umar a dit que ittaqillah ya amatallah, crains Allah, ô esclave d'Allah, faqad an'ama Allahu alayki wa ahsana ilayk. Allah t'a accordé des bienfaits. La beauté, tout ce que tu as, ce sont là des bienfaits. Sois reconnaissante et n'utilise pas ces bienfaits dans le haram. Et cette personne, cette dame, elle a, on pourrait dire, retrouvé ses esprits, on pourrait plutôt dire, elle a retrouvé son iman. Elle a réalisé que, en fait, elle jouait, elle ne voulait pas vraiment, mais elle a compris que cet appel vers le haram est extrêmement lourd en conséquence, et que la personne qui accomplit ce péché doit réaliser qu'à chaque étape de l'au-delà, il risque de retrouver les conséquences de ce péché au moment où l'ange de la mort reprend l'âme, lorsqu'on est dans la tombe, lorsqu'on est ressuscité, au moment de recevoir le livret de compte, lorsqu'on est près de la balance et lorsqu'on est présenté devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal. En commentaire, les savants disent que si chaque croyant et chaque croyante avait intégré ces étapes du Akhira dans toutes les situations de leur vie, on pourrait dire que plus personne n'accomplirait de péché. Et encore moins ce genre de haram, ce genre de péché. Parce que, comme l'a vu dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, cette princesse, cette reine, lorsqu'elle s'est présentée à Youssouf, qu'est-ce qu'elle a dit? Hey talak! Elle dit, c'est une parole qui ne sied pas à une femme de ce rang. C'est vraiment, elle a atteint un degré presque bestial où elle oublie ses nobles origines, elle oublie ce qu'elle représente pour le peuple parce qu'elle se laisse emporter par les pulsions, par le haram. Donc quand une personne met de côté sa foi, met de côté son akhlaq pour suivre uniquement ses instincts, cette personne peut tomber au plus bas. Qu'Allah nous protège. Il y a un tafsir également du verset de la sourate Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jannah, deux jardins. Mujahid rahimahullah, qui était Mujahid? Mashallah, on a des spécialistes ici. Non, de Ibn Kathir. Mujahid rahimahullah était le professeur de Ibn Kathir. Mujahid rahimahullah, il dit que en tafsir, en commentaire de ce verset, celui qui éprouve la crainte d'Allah, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura pour lui donc deux jannah, deux jardins. Et dit huwa ar-rajul yadhkurullah 'inda al-ma'asi, elle dit c'est l'homme qui, au moment où il va accomplir le péché, il éprouve la crainte d'Allah, il s'éloigne, il abandonne totalement ce péché. Ce verset concerne cette catégorie, sans préciser que ça concerne le zina. Et c'est là une bonne nouvelle pour chaque personne qui était à deux doigts d'accomplir un haram et qui ressent la crainte d'Allah, qui réalise qu'Allah muttali'un alayk, qu'Allah t'observe, Allah te voit, et que la personne délaisse le haram par amour et par crainte d'Allah. On a espoir de faire partie des récompenses citées dans ce verset. Malik ibn Dinar, rahimahullah, dit également Jannatul Na'im. Il donne la description de ce paradis, où est-ce qu'il se situe entre Jannatul Firdaus et Jannatul Adn. Il dit que parmi les personnes qui auront l'honneur d'habiter ce Jannah, alladhina hammu bil ma'asi, ceux qui avaient l'intention d'accomplir le péché. فَلَمَّا ذَكَرُوا عَظَمَةَ اللَّهِ رَاقَبُوهُ, dit lorsqu'ils se sont, et à ce moment, ils se sont rappelés de la grandeur et de la puissance d'Allah Azza wa Jal, et ils se sont immédiatement éloignés de ce péché. Ça concerne n'importe quelle personne qui a deux doigts, encore une fois, de succomber aux tentations. On pourrait garder l'exemple de l'adultère, mais on pourrait donner d'autres exemples également. Je vais donner un exemple qui va concerner un peu plus les jeunes. Je ne parle pas des jeunes qui sont là, mais un moment, ceux qui vont écouter par la suite ce programme. Je suis un jeune de 18 ans, de 19 ans. J'ai une connexion Internet au débit et un ordinateur portable dans ma chambre, comme c'est le cas de 100% des jeunes. On généralise. Et quand il n'y a personne, quand les parents dorment et qu'il n'y a donc plus de surveillance, Et que les parents, bon, ils sont un petit peu dépassés. Donc, le truc, comment on appelle ça, les programmes de surveillance, ils ne savent pas le mettre. Ou alors, je suis plus malin qu'eux, je suis un petit hacker. Hacker, on dit. Un petit hacker, je ne sais pas comment on dit. Et j'arrive à détourner les mots de passe, ainsi de suite. Bref. Et que je m'apprête à aller sur un site, je dis des gros mots, un site pornographique. Ou un site de rencontre. D'accord ? C'est-à-dire, le zina par les yeux. Au moment où, là, de cette situation où on est seul, isolé, il fait noir, il n'y a personne, qu'est-ce qui t'empêche de faire le haram ? Ça dépend d'un clic, c'est en quelques secondes. En plus, si tu as 20 mégas chez toi, ça arrive plus vite. Donc, qu'est-ce qui t'empêche ? Il n'y a aucun asbab khariji. Il n'y a rien d'extérieur qui t'empêche d'accomplir ce péché. Mais au moment où tu vas cliquer sur le lien, tu te dis que c'est pas possible, je suis musulman. Je viens de faire salat al-Isha à la masjid. J'ai dit, oh haram. Non, quand même pas. Pas haram, Makkah. Je viens de faire salat al-Isha à la masjid de Montreuil ou de Saint-Denis ou peu importe l'endroit. Demain, je vais faire Fajr à la masjid aussi. Je ne peux pas me rabaisser. Je ne peux pas me mettre dans une situation proche de la personne qui n'a pas iman et qui va regarder ces choses-là avec un sentiment d'impunité totale. Pour ces gens-là, il n'y a aucune conséquence. Ils n'ont pas iman. Ils ne croient pas au Jannah ni au Jahannam. Je vais me mettre dans une situation identique à cela. Dans ce cas, ce iman qui a animé mon cœur, qui m'a permis de venir à la masjid, salat al-Isha, et qui va me donner la possibilité, bidina, de faire salat al-Fajr, ce iman me sert à quoi ? Juste à perpétuer la salat traditionnelle ? Mais est-ce que ce iman ne m'empêche pas de faire le péché ? Est-ce que ce iman n'a pas atteint un haut degré qui m'amène vers le taqwa, où j'arrive à m'éloigner de tout ce qui est haram, jamais me mettre dans une situation où Allah Rabbul Izzah serait mécontent de moi ? Donc cette personne qui à ce moment-là pense à Allah Azza wa Jal comme on l'a dit et qui décide de ne pas ouvrir cette page ou de ne pas cliquer sur le lien, ben subhanallah, on peut dire que c'est quelqu'un qui était exposé au péché et qui l'a abandonné par amour et par crainte d'Allah et on peut avoir beaucoup d'espoir. Ce n'est pas comme celui qui allait faire l'adultère et qui a refusé, mais Allah Azza wa Jal est tellement généreux et qu'il suffit parfois d'une décision de notre vie, qu'il suffit parfois d'une manifestation d'amour et de crainte d'Allah. En fait, tout ce qui vient du cœur est aimé par Allah. Tout ce qui vient du fond du cœur qui est rempli de ikhlas, qui est plus mukhlis que ce jeune qui abandonne ce haram ? Qui est plus sincère, qui est plus mukhlis que ce jeune homme qui est au lycée ou qui est à la fac ? On va dire maintenant, il est majeur, d'accord ? Et qui, pendant un cours ou au CD ou autre chose, il rencontre une jeune fille, ils font des recherches ensemble, ils sont dans un même groupe ou autre chose, et qu'il sent qu'il a des sentiments pour cette personne et que les sentiments sont réciproques. Et il sait que s'il fait un pas, il obtient, ou que c'est la fille qui a fait un pas ou vice-versa, mais qui préfère couper court à ce début de liaison, par amour et par crainte d'Allah, et à s'éloigner de la personne pour ne pas succomber dans le péché. Wallahi l'azim, ce genre de réaction-là, ben c'est uniquement un jour de qiyama qu'on peut voir les récompenses. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'y a pas plus grande épreuve que d'être éprouvé par les pulsions, les passions. Et ça concerne les jeunes, ça concerne les gens, les jeunes mariés, ça concerne les personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, ça concerne les personnes dont la barbe a commencé à blanchir aussi, parce que nous restons des êtres humains. Nous restons des êtres humains et c'est là une faiblesse qui a été créée en nous. C'est la fitra, c'est de notre inéité d'une certaine façon. Et Shaitan, il va travailler ça. Et donc, c'est une lutte permanente contre Iblis pour ne jamais succomber à ce péché qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de toujours refuser les tentations de Shaitan, de toujours baisser le regard et d'éviter ces zina. Et jamais se dire que moi je suis tranquille. Moi je suis barbu, moi je suis quelqu'un qui est dans la religion. On ne sait pas. On ne sait pas les tentations de Shaitan, dans quelles circonstances. Il faut être toujours extrêmement vigilant. On passe à l'histoire suivante. Non, il y a la citation de Maymoun. Je pense que c'est Maymoun bin Mahran. C'est pas cité, mais ça doit être lui. Il dit que Al-Dhikru Dhikran, wa Dhikrullahi Azza wa Jal bil Lisani Hasan, wa Afdalu Minhu. C'est un peu long, citation. Il dit qu'il y a deux catégories de dhikr, de pensée. Il y a la pensée d'Allah, le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, dit ça, c'est une bonne action. Il dit après, il y a une pensée d'Allah qui est supérieure. C'est lorsque tu penses à ton Seigneur au moment où tu risques de tomber dans le péché et que cette pensée d'Allah t'éloigne du haram. Le fait de penser à Allah au moment où tu risques de sombrer de le haram, ben ce dhikr-là, c'est le dhikr qui te sauve réellement. C'est ce dhikr, cette pensée d'Allah, c'est en fait la manifestation de la piété que tu as de ton cœur, qu'Allah nous accorde cette qualité. Et puis il y a l'histoire plus connue, c'est un hadith qu'on avait un peu expliqué la dernière fois, le hadith d'Umar ibn al-Khattab, l'histoire de ces jeunes qui étaient coincés dans une grotte et ils ont tous mis en avant une bonne action qu'ils ont fait de leur vie, et certainement la meilleure des actions, l'action qui leur a permis d'obtenir la satisfaction, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et il y a cette personne qui a dit une parole, et je recite la parole parce que ça on l'avait oublié de dire la dernière fois, lorsqu'il décrit l'amour qu'il avait pour cette jeune fille, il dit que j'aimais une femme. Il dit que Ashaddu ma yuhibbu ar-rijal an-nisa, l'amour que j'avais pour elle, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre comme amour ou comme sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'il était, on pourrait dire, fou amoureux de cette personne. Et au moment où il a la possibilité de faire le haram, parce que cette personne vivait, cette femme, hein, elle traversait une période difficile, il y avait la famine, elle avait besoin un peu d'argent et elle n'avait pas d'autre solution. Et là, cette femme dit, crains Allah. Elle dit qu'au moment où elle m'a dit, ittaqillah, j'ai pensé à mon Seigneur et je me suis éloigné du haram et j'ai abandonné le zina totalement. Il dit que cette action-là a été tellement appréciée par Allah que c'était certainement l'action de sa vie. C'était l'action de sa vie, la meilleure des actions que ce jeune homme a pu accomplir. Et il y a beaucoup de charh, de commentaires sur ce hadith, mais tout ça, ça va dans le même sens. S'éloigner de ce péché, c'est une réaction noble, une réaction de croyante. Maintenant, on terminera avec deux exemples de femmes qui ont refusé les avances de personnes, d'hommes qui avaient un iman trop faible. Des croyants, bien sûr, mais qui avaient un iman trop faible. L'histoire d'un homme de la tribu de Banu Sulaym. Il dit, cette personne explique, j'étais fou amoureux d'une femme, tellement amoureux, mais je n'osais pas parler avec cette femme, je ne faisais que l'observer de loin. Quand elle sortait de chez elle, je marchais un peu de loin, j'observais, je regardais, je contemplais sa beauté. Jusqu'à ce qu'un jour, elle comprenne que je passe mon temps à suivre. Bref, et cette personne m'a demandé, qu'est-ce que tu recherches exactement? Et il a expliqué que je suis subjugué par ta beauté, je ne peux plus résister. Il a dit, « Da'a dhalika liyawm al-tarabun. » Le « yawm al-tarabun », c'est un des noms du Qiyama. Il a dit, « Délaisse ça par crainte du jour de Qiyama où nous serons appelés auprès d'Allah Azza wa Jal. » Il dit, « Fa'abkatni wallahi fama'udtu ila dhalik. » Il dit, « Lorsqu'elle m'a fait ce rappel, délaisse ta passion, délaisse ton envie par crainte du Qiyama, le jour où nous serons tous les deux devant Allah Azza wa Jal. » Elle dit qu'à partir de ce moment, j'ai un retour de iman, je me suis mis à pleurer par remords pour ces mauvaises pensées. Elle dit, depuis ce jour, je ne suis plus jamais retourné vers les gens. Vous allez dire que oui, mais ça allait être simple. C'est comme si il donne une réponse d'une grande simplicité, mais c'était des réponses sincères. Lorsque, et ça c'était la qualité des gens pieux, même s'il y a eu des faiblesses, lorsqu'on parlait d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il y avait ce terme ittaqillah, crains Allah, ça faisait un effet immédiat sur leur cœur. On termine avec l'histoire de ce bédouin, qala Arabi. Il dit qu'un soir j'étais dans le désert et en train de contempler les étoiles, lorsque de loin je vis une femme d'une grande beauté. Il dit que je n'ai pas pu résister, je me suis approché de cette personne et cette personne, qui était une femme pieuse, m'a dit, est-ce que tu n'as pas un peu d'intelligence, si vraiment ton iman est aussi faible pour me demander une telle chose, mais tu n'as pas une certaine intelligence pour comprendre que ça ne se fait pas de dire de telles paroles? Et j'ai répondu à cette dame, Wallahi ma yarana illa al-kawakib. Elle a dit, je jure par Allah, déjà il jure par Allah, donc ça montre l'incohérence. Elle a dit, il n'y a que les étoiles qui nous voient. Elle a dit, il n'y a personne, il veut dire, c'est une expression arabe, dit qu'il n'y a personne, regarde, il n'y a que les étoiles. Qui nous voit là? Même si on s'adonne à ce plaisir haram, qui nous voit? Qui va rapporter à nos tribus respectives? Elle dit, « Fa'ayna mukawkibuha ». Elle dit, « Mais où est donc celui qui a créé ces étoiles ?» Et là, il y a eu réaction de l'iman. Il a repris les mêmes termes de ce bédouin qui a dit qu'il n'y a que les étoiles qui peuvent nous voir. Elle dit, « Mais celui qui a créé ces étoiles, est-ce qu'il ne nous voit pas ?» Et là, il y a eu réaction, retour de foi, retour de iman, et cette personne a décédé. Donc ça, c'est deux histoires, deux exemples de femmes pieuses qui ont refusé les avances d'un homme par amour et par crainte d'Allah. Il restait une dernière histoire qui a été racontée par Ibn al-Jawzi, rahimahullah. L'histoire se passe à Basra. Donc là aussi, Basra à l'époque, C'est un pays donc où il n'y avait que des Ahlul Iman. Il parle l'histoire d'une jeune femme qui était très belle et qui recevait beaucoup de demandes en mariage, mais elle refusait toutes les demandes. Il y avait une personne de la tribu des Mahalabi, et il a entendu parler de cette femme, et lors d'un voyage commun, il a essayé d'approcher cette personne, il a essayé de témoigner son admiration pour cette femme, et il lui a demandé en mariage. Il a dit, je te demande en mariage. Soit tu acceptes, soit si c'est le mariage ne t'intéresse pas, mais on fait ce qu'on a à faire, parce que les sentiments que j'ai pour toi, ben je ne peux pas les contenir. Donc tout ça, ça nous fait comprendre que cette faiblesse humaine, elle a toujours existé, quelle que soit l'époque. Et cette femme, lorsqu'il a vu que l'homme était vraiment décidé, il a dit à cette personne, « Ok, je réfléchis, va voir, parce qu'ils étaient dans un groupe, ils étaient en voyage, elle dit, va voir, est-ce qu'il y a une personne qui est encore réveillée ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont réveillés ? Et là, cet homme, il pense que cette femme, elle va peut-être accepter, parce qu'elle est en train d'analyser, voir la situation, s'il y a quelqu'un qui peut nous voir ou qui ne nous voit pas. Et il a répondu que non, tout le monde dort. Et là, elle va dire une parole qui va réveiller le iman de cette personne. « Wayhak, ayanamu rabbul alamin. » Maintenant, dis-moi, est-ce que Allah Azza wa Jal dort ? Tu m'as dit qu'il n'y a plus personne de réveillé, tout le monde est en train de dormir, rappelle-moi, est-ce que Allah notre Seigneur dort ? Et la personne dit que cette parole m'a glacé le sang, m'a saisi, et la personne a retrouvé son iman, et alhamdoulilah, la personne s'est éloignée du haram. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces cinq anecdotes ? Encore une fois, pour qu'on se rappelle que subhanallah, ça c'est un piège de shaitan, qui a toujours existé à toute époque, même dans des endroits proches de Mecca, de Medina, même à des époques proches des tabi'in, atba'i tabi'in, Shaitan a toujours réussi à détourner un grand nombre de personnes par le biais de ce péché. Et ce n'est pas pour rien si les personnes qui résistent encore plus à notre époque, parce que vous savez que les récompenses dépendent entre autres de la difficulté à accomplir la bonne action. Si on habite dans un contexte où la pratique de la religion est extrêmement complexe, extrêmement difficile, ben, résister, accomplir les bonnes œuvres et résister au haram aura encore plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc à notre époque où l'adultère est muntashir, est tellement répandu qu'il finit presque par être accepté par l'ensemble des civilisations, le croyant qui s'est refusé le zina, alors qu'il lui est proposé, Inch'Allah, il a espoir d'avoir les récompenses qui sont promises par ce hadith. On peut s'arrêter à là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, il y avait le tafsir de Sourate An-Nur, juste l'introduction. Il y a une parole magnifique d'un grand savant qui explique que dans les trois religions qu'Allah a révélées, les trois religions des livres, l'adultère est interdite. Le zina a toujours été haram chez les Yahouds, les Juifs, chez les Nasara, chez les chrétiens. Et dit donc, dans la meilleure des religions, dans la dernière des religions, on comprend que, subhanallah, le péché, le zina, est tellement complexe et tellement dangereux qu'Allah Azza wa Jal demande aux croyants de s'en éloigner. Et le terme « wala taqarabu » est vraiment spécifique à l'adultère, spécifique à ce péché. Et il dit donc, pourquoi est-ce que, subhanallah, dans toutes les religions, Allah Rabbul Izza a toujours interdit les relations extra-conjugales en dehors des liens du nikah? Dit parce que lorsqu'un homme, et là il parle du respect, très souvent on parle d'islam en tant que, astaghfirullah, il y en a qui parlent d'une religion misogyne ou autre chose, dit que bien au contraire, lorsqu'un homme et une femme, ils ont des relations, ils ont un rapport, ça ne doit pas être uniquement l'expression des pulsions et un rapprochement des corps, ça doit être un rapprochement des cœurs. Il dit, lorsqu'un homme et une femme décident d'avoir une relation ensemble, ça doit être dans les liens, à travers des liens du nikah, et il doit y avoir des sentiments, et il doit y avoir également une promesse de fidélité, une promesse de fonder un foyer, une promesse également d'avoir dhurriyatan tayyiba, des enfants pieux, et ils auront la muhabba, l'entente entre l'homme et la femme pour donner l'éducation. Dit, c'est tout ça, ça c'est l'engagement. Ce n'est pas juste l'expression d'une passion, d'une pulsion. Dit ça. Dit la personne qui pense que on est en droit d'avoir cette certaine liberté qu'on appelle plutôt un libertinage, c'est une réaction animale. Il n'y a plus de différence entre les pulsions de l'animal et la réaction de l'homme si on ne voit pas de frontières, on ne voit pas de distance et qu'on n'accompagne pas les sentiments avec la relation purement physique. Donc ça, Inch'Allah, on va expliquer la prochaine fois avec différents versets de la sourate An-Nur et parmi ces versets, les termes très crus de la sourate An-Nur, Az-Zani, La yankihu illa zaniyatan aw mushrika, aura également l'autre verset, la gravité, le fait d'accuser une femme d'avoir accompli l'adultère, comment est-ce qu'il y a des conséquences pour qu'on réalise que c'est un péché horrible et en aucun cas on peut même avoir une mauvaise pensée sur un frère ou une sœur à propos de ce péché. On voit également que parmi les principes que l'islam préconise pour rester éloigné, pour éviter les situations de haram, c'est un principe extrêmement important, al-istidha, ne jamais rentrer dans une maison sans cogner, sans demander ijaza, l'autorisation. Et également, le fait de baisser le regard. Également, il a réalisé pas mal de, inshallah, de durus qu'on va essayer de mettre en avant, extrait de la sourate An-Nur, et on va voir qu'est-ce que l'islam préconise pour que l'homme reste éloigné de ce péché, qu'Allah Azza wa Jal nous protège, de ce péché, qu'Allah Rabbul Izzah protège les couples, protège les jeunes qui ne sont pas mariés également, et qu'Allah Azza wa Jal protège nos enfants, nos jeunes qui vont grandir dans une ambiance, wallahu musta'an, totalement libertine, où peu à peu il n'y aura plus de frontières entre le haram et le halal et le haram, mais c'est déjà des situations que nous vivons. Et plus on va s'approcher du qiyama, des petits signes de qiyama qui vont se compléter, le prophète a annoncé que le zina deviendra quelque chose de totalement répandu, de totalement accepté. Dans ces situations-là, vraiment rester ferme dans sa religion, ça va être quelque chose de difficile, mais qui sera apprécié par Allah Azza wa Jalla, qu'Allah nous protège et donne les qualités de iman. Wa tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.